Nous sommes le lundi 26 novembre et vous écoutez le 37e épisode Face A de ProxyJeux. ProxyJeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société.
ProxyJeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone ou Android.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. Salut les joueurs, salut les joueuses. Salut Thomas.
Salut Olivier.
Salut Jérémy.
Bonjour Jérémy.
Salut Olivier, salut Thomas.
Donc ce soir, nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir Thomas, qui est... tu es quoi ? Un joueur lambda ? Non, qui n'est pas qu'un joueur lambda.
Un joueur lambda, ça me va bien.
Donc nous avons le plaisir, la joie d'accueillir un joueur lambda qui s'appelle Thomas.
Lyonnais.
Vous allez bien ?
Ah bah du coup, on ne sait pas qui doit répondre. Hein.
Bah oui, évidemment, on va bien.
Ça va être compliqué ce soir, ça va être très compliqué.
Ah, dis pas, vous allez bien, c'est pas possible.
Alors Thomas, tu vas bien ?
Bien, bien, et toi ?
Ça va. Alors Thomas, on parle de toi dans ProxyJeux depuis un certain temps. On parle
je
de toi parce
même
que...
pas. Hein.
Non, parce que...
Mais tu
parce
que j'écoute ça... pour ça, en fait.
Voilà. Tu ça veut dire que tu ne nous écoutes pas ?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Tu peux t'en aller.
Bon.
Voilà. Alors, pourquoi,
à pied.
Pourquoi on vous... pourquoi on parle de toi ? On parle de toi parce que tu es notre référence en jeu de train. Et donc, on pense que peut-être aujourd'hui, on parlera de jeux de train avec toi. Alors, le suspense est intenable et on verra tout à l'heure si Thomas nous parle de jeux de train. Jérémy, on va faire un tout petit retour sur les numéros précédents. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle de plusieurs choses. D'abord, le guide de Noël.
Alors oui, effectivement, on vous a mis en ligne. Enfin, je pense qu'on l'a mis en ligne.
Oui, à l'heure, où le 37A sera en ligne. Oui, le guide de Noël aussi.
Voilà, donc un guide de Noël... Avec Olivier, on vous a concocté avec amour une bonne quinzaine de jeux sélectionnés par catégorie. On a sélectionné que ce qui était sorti en 2012. Alors, il y en a, c'est des rééditions, hein, on a triché un petit peu, mais... vous avez une bonne quinzaine de jeux pour tout, pour les enfants, pour les grands, les ados,
la famille,
les gamers.
L'apéritif.
Voilà.
Voilà. Un grand merci à Quix qui a répondu à notre appel concernant l'application ProxyJeux. Donc, on vous avait dit que l'application voulait la faire vivre un petit peu plus qu'elle ne vivait actuellement. Et Quix a répondu favorablement à notre appel. Donc, on espère que cette application va vivre un petit peu plus, que les événements seront un peu plus à jour. Alors, profitez-en, envoyez-nous des événements, on va les mettre en ligne, il n'y a plus de problème.
Surtout que vous avez un formulaire maintenant sur le site mobile, proxyjeux.mobi, pour proposer les événements. Et puis après, j'ai encore un petit peu de boulot, mais vous pourrez les retrouver même directement sur le site, en fait, les événements, pas forcément dans l'application mobile, ça sera mieux.
Très bien. Est-ce que Thomas, tu veux nous parler du 14 janvier ?
Mais oui, tout à fait. Le 14 janvier, si j'ai bien écouté le dernier numéro, vous êtes à la triche, c'est ça ?
Tout à fait.
Ah, c'est bien.
Donc la triche, moi je m'en fous, je triche, le bar à jeux bien connu des Lyonnais. On y sera le 14 au soir, c'est un lundi. Vous pouvez, si vous êtes Lyonnais, même si vous n'êtes pas bénévole de la triche, parce que c'est avant tout pour eux qu'on compte faire cette manifestation, et pour vous bien sûr, chers auditeurs. Si vous êtes Lyonnais et que vous avez envie de venir nous voir, ça sera un live, ça sera sur les pentes de la Croix-Rousse. Et on va faire une rétrospective de l'année 2012. Ça va être cool, il y aura à boire et à manger.
On fait des préinscriptions, parce qu'il n'y a que 50 places quand même.
Envoyez-nous un petit mot, que ce soit sur Twitter, que ce soit par mail, contact à ProxyJeux. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème, venez.
Et du coup, si on est juste adhérent de la triche, on peut venir quand même ?
Oui, ouais, tout à fait.
C'est ouvert.
Et dernière chose, le monde est sauvé, mais il faut nous noter.
Oui, on n'a eu qu'une note en 2 semaines.
C'est triste,
oui.
C'est triste, triste, triste.
C'est une note de Wolvi.
Heureusement qu'il est là, lui.
Voilà. Merci,
Wolvi.
Merci pour ta note. En plus, 5 étoiles, c'était parfait.
Alors, doublement, puisque Wolvi a également envoyé une nouvelle question à des déchutes. Donc, on va bientôt avoir un décodé avec une autre question. Ce ne sera plus W76, ça sera Wolvi02 qui nous a envoyé une question. Et n'oubliez pas les décodés des déchutes. Et puis, bientôt, très bientôt, de nouveau, Plane et le jeu de rôle, ça va revenir. J'espère que ça sera en ligne très bientôt. Et puis, une fois n'est pas coutume, ça va devenir mon expression favorite, une fois n'est pas coutume.
Et n'hésitez pas.
Non, mais ça c'est déjà mon expression favorite. Alors, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit retour sur les commentaires que vous nous avez faits. Vous êtes assez nombreux à laisser quelques commentaires sur notre site, sur Twitter, à nous envoyer des petits mots doux par Twitter ou sur contact@proxyjeux.fr. Et dans le numéro 36 d'actualité, le 36A, on vous a parlé de cette campagne de jeux de rôle mis en ligne régulièrement sur iTunes, Par-delà les montagnes hallucinées. Et puis on vous a dit que c'était une adaptation du roman de Lovecraft. Et en fait, ce n'est pas tout à fait l'adaptation, c'est la suite. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une expédition en Arctique. Le roman raconte la première expédition, l'expédition Pabody, et la deuxième qui s'appelle Starkweather Moor. C'est celle de Par-delà les montagnes hallucinées. Alors à savoir que effectivement, ça t'est posé la question, la périodicité, c'est une fois tous les mois, donc vous avez quand même 35, 40, 45 heures à avaler avant de pouvoir avoir les autres, donc vous pouvez vous y mettre, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'ils sont mensuels que vous allez tout de suite en avoir besoin.
Alors, autre précision,
oui.
On enchaîne.
Oui.
C'est Yumgi qui a reprécisé parce que Olivier, parce qu'on avait, on parlait de ses BD qu'il nous a envoyé, Chambre Noire. Qui était estampillé jeunesse. Et du coup, on disait que je crois que.
Tu peux me dire pourquoi c'est moi ? C'est pas moi qui ai mis l'étiquette, hein, je veux dire. L'autocollant, c'est pas moi, j'y suis pour rien.
Ah, il y a un autocollant jeunesse.
Il y en a,
d'accord.
Oui.
D'accord, ah, c'est pour ça. Très bien, parce qu'il a été sélectionné à Angoulême, c'est pour ça qu'il a été estampillé jeunesse. Mais bref, a priori, l'auteur recommande plutôt que les adultes le lisent avant, parce que c'est pas un thème.
Oui, alors juste pour expliquer la première planche, c'est comme ça que ça s'appelle, une planche.
Oui.
Donc la première planche.
On progresse.
On voit arriver ce qu'on pense être un docteur dans une maison close. Donc effectivement, le background est un peu spécial. On vous rappelle quand même, ça s'appelle Chambre Noire, c'est paru chez Vent d'Ouest. C'est trois BD qui se suivent, ça parle de revenants. Et Jérémy va les lire, donc il vous dira ce qu'il en pense. Parce que moi, j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire.
C'est dommage, avec trois albums, c'est vite.
Oui, mais je suis un garçon très occupé.
C'est ça.
On vous a demandé votre avis sur Zombicide, parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de retours. Et on nous a orienté vers un blog qui s'appelle Blog Jumanji, où il y a une critique de Zombicide, donc vous pourrez aller la lire. Alors visiblement, la personne qui a écrit ce petit article aime beaucoup le côté coop. Alors, vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes familier de Proxy Jeux, que moi, c'est pas un truc qui me plaît énormément, j'aime bien les coups de pute. Dans un jeu coop, hein, c'est pas...
Il y a des messages cachés.
Voilà. grosse particularité, les armes sont peu nombreuses et puis assez rustiques, rudimentaires. Faut d'abord fouiller les bâtiments, ça fait venir des zombies, bien sûr, c'est classique. Un système d'XP. Et alors moi j'aime beaucoup, alors pas forcément le jeu, mais la façon dont l'article est tourné. Je cite, après quelques tours, le plateau qui semblait bien vide au départ va vite ressembler à un quai de gare. Un quai de la gare Saint-Lazare, un jour de grève, avec les mêmes râles, les mêmes regards vides et les mêmes odeurs de chair en putréfaction. Voilà, bon, ça m'a fait rire. Visiblement, il aime beaucoup. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet article, c'était la suggestion de musique d'ambiance. Silent Hill, Greenhouse, 28 jours plus tard. Regardé ce magnifique film et la suite 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, vous ne serez pas insensible à ce morceau de musique. Moi, j'adore. Un court article, on a eu une vision plutôt positive de Zombicide. Et donc, sur le blog de Jumanji, on a pas que ça. Il a également, puisqu'on sort notre guide d'achat de Noël, il a aussi sorti son guide d'achat de Noël. Et alors lui, il a renvoyé vers les différents prix du DIC, les trois listes, l'As d'Or, le Spiel, l'IGA, le Golden Geek Award. C'est particulier, mais c'est une façon assez rigolote de vous renvoyer des bons jeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit peu ce qu'on se dit à chaque fois qu'on passe en revue les prix ludiques. C'est que ça permet de faire un choix de découvrir des jeux.
Et c'est pour ça qu'on passe autant de temps à vous présenter des jeux.
Je sais pas, Thomas, qu'est-ce que t'en penses, toi, des prix du DIC ?
Non, c'est pas mal. C'est effectivement, ça permet de mettre en lumière certains jeux, mais le problème, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes titres qui reviennent.
Seven Wonders ?
Par exemple.
Descendant cette année, mais globalement, quand même, cette année, on a trouvé pas mal de choses différentes.
Même, je trouve que même parmi les présélectionnés, ça tourne un petit peu en rond, quand même, au bout d'un moment.
Alors, c'est parce que t'écoutes pas Proxy Jeux.
Bon, on en a quelques-uns à discuter tout à l'heure. On reviendra sur les prix ludiques. Ça, c'était pour les retours sur les commentaires qu'on a eu sur le site. Les petits mots que vous nous avez laissés, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce dont on parle et on en parlera après à notre tour. On y va, Thomas et Jérémy ?
Allez, go !
Eh bien, on y va. Et c'est moi qui vais commencer, je vais vous parler de Sans Détour, encore une fois, bien sûr, on parle toujours de la même chose chez Proxy Jeux, toujours des mêmes personnes, parce que Sans Détour, ils font vraiment des très 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 belles choses. Alors,
ils ont un rythme de fou en ce moment en apparition.
C'est surtout ça. Alors, ils nous ont sorti un pack Nyarlathotep il y a très peu de temps, avec une très très jolie sacoche, et puis la formidable campagne des masques de Nyarlathotep. On vous a parlé des extensions diverses et variées, et aujourd'hui on va vous parler du pack Collector au cœur des années 20. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce pack ? D'abord, il y a un livret qui va vous parler de tout ce qu'on va pouvoir... Oui ?
Non, je vais dire, on va peut-être pas vous représenter ce que parle au cœur des années 20, ce qu'on a présenté il y a deux épisodes.
Ah bon ?
Oui, mais bon.
Le bouquin de 128 pages ?
C'est ça.
D'accord.
Qui parle de la France des années 20.
D'accord. Et puis, en plus de ça... En plus de ce livre, vous allez avoir une flasque bootlegger de 210 millilitres gravée avec le symbole des anciens. J'aime.
J'oserais pas boire dedans, du coup.
Bah non, c'est plutôt positif,
le signe des anciens.
T'as peur de pas de la santé mentale ?
Ouais.
Une paire de boutons de manchette et une pince de cravate à cravate gravée de la même façon avec le symbole des anciens, un calendrier, 8 cartes postales, 2 posters, un billet de $20... faisant office de certificat numéroté. Alors, c'est un dollar américain des années 1929.
Ça vaut plus rien, quoi.
Pas mal.
Ça vend le crack.
Bah oui, c'est ça. Et puis, tout ça présenté dans une caisse de champagne en pain massif, avec un couvercle à glissière marqué au feu.
Et c'est un signe des anciens dessus.
Non. Alors, tout ça pour la modique somme de, Maryse, 549 euros.
Pas loin. 149 euros, oui.
J'ai dit 549 euros.
C'est un peu trop dans le thème.
Mais oui, Maryse, 549.
En
précommande actuellement pour 149 euros. Et oui, vous avez une ristourne de 400 euros avec Proxy Jeux. 149 euros.
Il n'y en aura pas beaucoup.
Il n'y en aura pas beaucoup. Si vous souhaitez acheter ce pack, mais que vous ne mettez pas de bouton de manchette, je rachète... À bon prix, les boutons de manchette.
400 euros.
Faites-moi une offre et puis on verra, on s'arrangera.
Voilà. Alors, à noter que l'extension, version collector ou pas, elle sort en décembre.
Mi-décembre.
Donc, ce sera juste à temps pour Noël. Et par contre, pour le précommander, alors sachez que je l'ai aperçu rapidement.
C'est presque fini.
Je sais pas, je l'ai aperçu rapidement sur Ludic Bazar, mais l'annonce n'y est plus. Donc,
Ce matin, il en restait 150. Donc, je crois qu'ils en font 250 ou un truc comme ça. Il ne va pas y en avoir beaucoup.
Donc, je ne suis pas sûr. S'il y en a encore qui sont disponibles quand on mettra le billet en ligne, je vous mettrai le lien. Sinon, tant pis.
Pensez à moi.
Et puisqu'on en est au jeu de rôle, Olivier, je te propose, c'est pas une grosse news, mais je vais vous parler de Pathfinder. Pathfinder.
C'est la nouvelle version de Donjons & Dragons ?
C'est pas une nouvelle version, mais ouais, c'est un éditeur, je ne sais jamais sa nationalité. D'italien, j'en sais rien, qui voulait faire, qui voulait créer des scénarios, des univers dans l'univers AD&D 3.5. Et donc, du coup, je crois que le système doit être protégé. Je peux pas comme ça créer des suppléments pour AD&D sans licence. Donc, du coup, ils ont créé Pathfinder, ils ont repris les règles. Enfin, en tout cas, ça s'appuie sur les mêmes règles, les deux jeux sont compatibles. Et donc, ils ont créé un nouvel univers. La particularité de Pathfinder, c'est qu'ils sortent des campagnes en 6 livrets, ils en sortent un par mois. Une vingtaine d'euros, ça permet donc comme ça d'avoir des campagnes entièrement prêtes. Enfin, quand je dis entièrement prêtes, il faut quand même bosser, à mon avis, pour les MJ.
Comme d'habitude.
Mais ça permet de faire vivre, ça fait vivre le jeu. Je trouve que c'est un format je trouve que c'est bien trouvé. Et en plus, ça sort aussi en français grâce à Black Book. Et donc.
Black Book. Tu veux dire pas sans détour alors ?
Non. Non, voilà, Black Book qui est. Alors bon, personnellement, je ne joue pas à Pathfinder, donc je ne peux pas vous dire la qualité de la trad française, etc. Mais par contre, pour continuer à développer le jeu, là, ils viennent de sortir des packs avec des figurines. En fait, on retrouve un petit peu l'esprit qu'on a aussi dans AD&D 4, etc., où on est à mi-chemin entre le jeu de rôle, où on joue un rôle, et surtout, c'est encore beaucoup du jeu, puisqu'on place ces figurines sur un plateau de jeu un peu quadrillé pour représenter les combats, etc. C'est-à-dire que les règles de combat sont encore assez basiques.
Un peu proche de descente.
Ouais, c'est pas du descente.
Avec du placement et avec des lignes de vue, voilà. Avec...
Donc, après, faut aimer cette partie-là. Moi, personnellement, dans un jeu de rôle, c'est pas les combats qui m'éclatent le plus. Et il faut qu'ils soient rapides et sanguinolents. C'est ce qu'il dit dans Dirty MJ. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Il faut qu'ils comprennent les joueurs qu'un combat, c'est pas. Il faut qu'ils tremblent devant un combat. Donc voilà, avec des figurines, c'est pas le cas. Mais bref, c'est une façon que AD&D a eu de faire. Donc c'est normal qu'ils aillent là. Et donc, ils ont sorti des packs. Ils ont sorti un pack un pack jeu de base et puis ensuite un pack avec 300 monstres en plus pour reprendre ça.
Alors, 300 monstres ?
Ouais, c'est pas des figurines, c'est des trucs en carton.
Tu vois, ça fait beaucoup quand même.
Bah oui. Donc chacune des boîtes, c'est à peu près 35 euros. On vous mettra, vous pouvez trouver ça bien sûr chez Ludic Bazar. Faut savoir que la règle est un peu simplifiée, mais c'est un moyen d'amener des joueurs peut-être justement vers du jeu de rôle derrière. Toutes les voies sont, enfin, tout est possible pour des fois jeu de rôle, n'est-ce pas Thomas ?
Mais est-ce que c'est pas un peu réducteur justement de réduire ça à du porte-monstre trésor ?
Alors les scénarios, ils sont peut-être pas porte-monstre trésor, il y en a sans doute, mais pas toujours. A priori, je sais qu'il y a quelques campagnes de Pathfinder qui sont sympas, puisque Krog dans son interview disait qu'il était revenu au jeu de rôle récemment par Pathfinder.
Donc, ok. Voilà.
Et puis, parce qu'on parle de Pathfinder, je voulais signaler que pour la Gen Con 2013, donc ce gros événement qui se passe aux États-Unis.
Ce sera en août, par contre.
Oui, c'est ça. Mais c'est marrant parce qu'on n'en entendait pas beaucoup parler. Et puis là, depuis l'année dernière, on a Essen. Et juste avant, en août, on a la Gen Con. Ça, c'est bien. C'est bien. Et donc, deux lignes de la tête.
Oui, parce que la Gen Con, c'est que depuis très longtemps. Puisque la Gen Con 1993...
Oui,
sauf que j'ai eu l'arrivée d'un nouveau jeu.
C'était Colu Quintan, c'était deux ans après.
C'était Magic.
Ah. Non. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'en entendait pas parler de la même façon, parce que là maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des sorties qui n'attendent pas Essen et qui sont c'est normal un peu avancées. Ouais. Donc, Gen Con, en 2013, Pathfinder Adventure Card Game. Deck building coopératif pour 1 à 6 joueurs. Et là encore, tu parlais du out of the box et puis d'un jeu de rôle un petit peu plus facile à jouer. A priori, les joueurs vont diriger un personnage avec une carte, avec des statistiques comme la force, la constitution, la dextérité, l'intelligence. Et pour chaque attribut, des dés à jeter, donc des D6, des D10, des D12, même des D4 par exemple, pour le charisme de la personne, du personnage que j'ai devant les yeux. Et puis, donc, 7 cartes de statistiques plus un paquet de cartes qui va vivre en fait. Et le paquet de cartes sera attaché au personnage et l'aventure va être constituée d'un scénario où on va rencontrer des monstres, où on va avoir des choses qui vont se passer. Puis ça va, on rejoint le jeu de rôle avec tout ce qu'on peut imaginer comme rencontre, comme aventure à vivre et gérer grâce aux cartes.
Donc il ratisse large en ce moment pour amener des joueurs au jeu de rôle.
C'est ça. Et puis en plus, c'est deck building.
Ouais, il y aura un processus de... d'extension, ça va être un JCE, enfin, un peu, ouais, évidemment. Qu'est-ce que c'est bien fait.
Je te rappelle, c'est août 2013, donc on verra plus tard, mais oui. je trouvais que ça serait intéressant cette façon, le traitement du deck building game, donc du jeu de cartes à créer, parce qu'il faut pas qu'on utilise trop d'anglicisme. Et là, en l'occurrence, c'est ce mécanisme qui est mis un peu à contribution dans le jeu de rôle. Et je trouve que c'était rigolo.
Normal, c'est à la mode. Ouais. Allez, et on continue à enchaîner comme ça en restant sur les thématiques. Donc, je vais parler d'un jeu de cartes, un peu deck building, on verra pas trop quand
Comment
même.
Comment ça, un peu ?
Un peu, on construit ses decks, mais c'est surtout un gros JCE.
Son paquet.
Son paquet, ouais. Excusez-moi, mais je dis deck, parce que je suis comme ça.
Ok.
Je suis comme un joueur de cartes Magic et on parle de deck. Donc, c'est un JCE qui va, à mon avis, qui va cartonner, puisque c'est dans un autre univers aussi vendeur, aussi commercial que le Seigneur des Anneaux, qui est...
Star Trek ?
Oui, c'est presque ça, ouais. Une connerie. Monsieur, il a craqué pour X-Wing il y a deux semaines. C'est tellement vendeur, ces trucs, on craque à chaque fois pour ces univers.
Juste, je vous rappelais, parce qu'on n'a pas forcément des gens qui sont férus de jeux de société qui nous écoutent, le JCE, c'est un jeu de cartes évolutif. C'est-à-dire qu'on va avoir un paquet de base, et après, on va nous vendre plein de paquets d'extensions qui vont nous permettre d'enrichir le jeu.
Et là, l'éditeur, en même temps.
Et l'éditeur, oui, tout à fait, avant tout l'éditeur. Non, mais ça permet aussi de renouveler, et j'avais fait la remarque pour le Seigneur des Anneaux, ça permet de ressortir son jeu de base. Une fois que tu as fait ta partie, tes 3 parties, 4 parties, 10 parties, tu le laisses de côté, puis après tu te rachètes une extension, et c'est super sympa. Et là, cette fois-ci, c'est
Star Wars.
Star Trek.
Non, Star Trek, voyons. Il n'y a rien, il n'y a pas d'univers.
Donc,
en tout cas, ça ne vend pas beaucoup.
C'est Edge qui va nous proposer ça. Ils ont la licence Star Wars et ils l'utilisent à fond.
Ouais, c'est FFG qui est derrière à la base, à la réalisation. Mais en fait, il aurait dû sortir il y a un an.
Oui, enfin, on en avait parlé déjà.
Star Wars JCE, et puis on avait appris en janvier que finalement, ils retardaient d'un an la sortie parce qu'ils s'apercevaient que ce qu'ils avaient fait, ça ne marchait pas.
Ils n'étaient pas en coopératif au début ?
Ouais, ils avaient fait un coop. Mais bon, peut-être qu'ils recouvraient, après, je sais pas, ils ressemblaient trop à ce qu'ils ont fait Seigneur des Anneaux, j'en sais rien. Et finalement, ils ont décidé de faire un vrai jeu d'affrontement pour les vrais, pour les durs. Faut que ça castagne quand même. On veut des duels au sabre laser entre Luke et Dark Vador.
Tu veux dire, on peut.
Bah ouais.
On peut jouer l'Empire aussi.
Oui, exactement. Donc en fait, ça se joue à deux. Il y a un qui joue le.
Alors, dis pas le bien, hein, dis pas
non,
le bien.
Non, bah, Edge dit de côté lumineux. Ça fait presque le senti lumineux, tu sais, ça fait un peu
sect, non
ouais. Non, moi je dis la rébellion, et puis il y en a un autre qui va jouer l'Empire.
L'ordre,
le côté.
Voilà. La rigueur,
la droiture.
La droiture, c'est bien, tu vois, les choses carrées, quoi.
Tout ça, tout ça.
Faut que ça roule. Il y a un Empire à gérer quand même.
Attends, il y a des gros vaisseaux à construire, il faut quand même pas.
Voilà. Tricoter. Et alors. Le principe, c'est que les conditions de victoire sont différentes, évidemment. Il va falloir l'Empire, il va devoir. Comment on va dire il doit juste jouer le temps, lui. Il faut qu'il tienne, en fait, au maximum, il va falloir qu'il tienne 12 tours.
D'accord.
Et pendant que le joueur rebelle, lui, va devoir frapper des objectifs. Il en aura 3 à frapper, avec une force minimum requise avec ses cartes. En fait, quand je dis que l'Empire, il a à peu près 12 tours, c'est qu'à chaque tour, il y a un marqueur commence à 0, quand il arrive sur le marqueur 12, c'est la fin de la partie, et donc c'est l'Empire qui gagne. Mmh. De toute façon, l'Empire, a priori, de ce que j'ai vu, c'est sa seule condition de victoire pour l'instant, donc il faut tenir. Et sinon, on verra, il y a des moyens pour qu'il fasse accélérer la progression de ce compteur. Donc il ne faut pas traîner quand on est rebelle. Alors, les types de cartes, c'est un jeu assez classique, on va jouer des unités, ça peut être des personnages, des véhicules, des créatures, hein, toutes choses comme ça, donc qui permettront, c'est ça qui va nous permettre d'avoir de la force au combat pour aller... castagner ou défendre les objectifs. Après, il va y avoir des améliorations, c'est les compétences, c'est les équipements, des choses comme ça. Et puis, il y aura aussi des lieux qui vont permettre d'étendre, a priori, sa stratégie.
Enfin, c'est un 4X.
Développer. Ouais, c'est presque ça. À mon avis, c'est développé. Je le comparerais plutôt, il n'y en a pas beaucoup qui font référence, au site qu'on construisait, au site SITE, pas SITH, dans Netrunner, le corpo construit pour se développer.
Ça me faisait penser, effectivement.
Et donc, ça permettrait effectivement d'accélérer, du coup, sa stratégie. Donc, je pense que le joueur rebelle en aura besoin.
Et est-ce qu'on pourra jouer Jar Jar ?
Alors, non, oui, parce que j'ai pas précisé, c'est la...
Mais ça, Jar Jar Binks !
C'est dans la vraie trilogie. Alors, je
la
sais, ouais, dans la vraie...
4, 5, 6.
Ils appellent ça trilogie originale, voilà. Je sais que Disney... racheter les droits, que à mon avis cette trilogie va de plus en plus être oubliée.
Ah bon ?
En fait, je sais pas tes enfants, mais moi les miens, ils regardent plus les 1, 2, 3 que les 4, 5, 6. Oui, ils sont jeunes, mais c'est une Star Wars.
Ok.
Donc non, mais dans les nouvelles générations, c'est vraiment les 1, 2, 3 qui marquent le plus les gamins.
Et j'ai pas compris pourquoi t'as dit que c'était du deck building.
Alors non, après, parce que je peux finir, c'est le bordel. J'ai préparé un vrai truc pour vous sortir le jeu. C'est pas possible.
Pour une fois.
Pour une fois. Oui. Enfin, voyons.
Donc je te laisse finir.
Bon, c'est mieux.
Donc, j'ai présenté... quand tu veux.
Plein de types de cartes différents. Évidemment, à son tour de jeu, on va devoir... pour jouer ces cartes, il va falloir payer en ressources. Pour payer, en fait, on va mettre des jetons sur les cartes. Au lieu de les engager comme un Magic, les mettre sur le côté, on va mettre des jetons dessus. Les jetons focus. Une fois que la carte a un jeton, on ne peut plus l'utiliser pour autre chose. On ne peut plus utiliser ses capacités spéciales. On ne peut pas l'envoyer au combat, etc.
Et quelle différence avec engager ?
Alors, parce qu'on verra qu'on peut les engager au combat, et surtout, c'est que il y aura des cartes qui doubleront, par exemple, le nombre de jetons focus que tu vas mettre sur les cartes, mais au début de ton tour, tu n'enlèves qu'un jeton par carte. Donc une carte se retrouve avec 2 ou 3 jetons, tu ne pourras pas en bénéficier pendant plusieurs tours.
Donc tu as un système de file d'attente à gérer entre tes différentes cartes.
Voilà, a priori, c'est des cartes surtout pour gêner ton adversaire, tu vois, pour le ralentir. Ça veut dire, par exemple, qu'ils ont été pris dans une embuscade, ils sont retardés.
Hey. Il y a un vrai thème.
Thématique.
Et c'est ce qu'ils disent après, il faudra voir. C'est une bonne idée en tout cas, après, à voir comment est-ce qu'elle est, si c'est facile à mettre en œuvre, etc. Ensuite, une fois qu'on aura joué ces cartes, on pourra éventuellement aller au combat. Et donc il y a un système de duel qui a été mis en place, qui est assez marrant aussi. C'est un système de mise. En fait, les joueurs, chacun leur tour, vont prendre des cartes qu'ils ont en main, ils vont les miser. Alors, les mises face cachée. Donc jusqu'à ce que les joueurs aient misé autant de cartes qu'ils voulaient, ils s'est passé. Dans ces cas-là, on révèle ensuite les cartes qui ont été misées, elles ont des symboles. Donc ça indique qu'il y a 3 types de symboles qui indiquent sur quel type de dégâts elles font. Donc il y a différents trucs. Et on résout comme ça. Celui qui a le plus...
Alors c'est un petit peu comme dans Dune, avec des affrontements plutôt macro et après des duels.
Non, en fait c'est la...
Je parle du vieux Dune, des années 80.
Ouais, ou Trône de Fer, on pourrait dire.
T'as des duels dans le Trône de Fer
Ah non, mais je vois...
Dans le JCE,
je sais pas.
Non, tu parles du duel d'extension.
Non, je parle de Dune, t'avais une roue Et en fait, tu mettais un de tes combattants, il y avait vraiment des duels en fait.
Non, ils ajoutaient leurs forces et c'est tout.
Oui, bah oui, mais tu déplaçais tes unités sur Arrakis, et puis après, il y avait des affrontements et les chefs partaient au combat et allaient se.
Oui, comme l'entraîne de fer, oui. Tu joues ta carte de combat. Donc, je sais pas trop après comment ensuite.
Et les cartes, tu les récupères après le combat ou
je pense que c'est
défaussé.
C'est défaussé. Alors ils disent comme ça, c'est bien. C'était des cartes qui sont devenues mortes entre guillemets.
Ouais, ça te permet de les recycler comme ça.
Ouais. Ça veut dire sans doute aussi que du coup les decks tels qu'ils sont faits, t'as des risques effectivement que comment on avance le jeu, t'as des risques de se retrouver avec des cartes mortes. Ouais. Après, faudra voir si à l'usage c'est bien comme ça ou pas. Enfin, si c'est vraiment utile ou pas.
Oui, il faudra voir l'usage. Ouais.
Et puis après la scène de combat, tu as une scène de phase de la force où il va falloir. Là, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux JCE où tu vas décider quel personnage tu vas envoyer au combat pour la force. Mm-hmm. Et celui à la fin des deux joueurs qui a le plus de force va. Enfin, qui a le plus de points, je ne sais pas comment il calcule ça, va donc avoir la force de son côté. Et avoir la force de son côté, c'est très important. Pour le côté obscur, ça va lui permettre d'avancer d'un cran de plus, justement, le fameux compteur qui va jusqu'à 12.
Alors là, jusque-là, tu me plaisais bien. Et là, ça sera un petit peu le mécanisme plaqué, tu sais, pour compter les tours et pour avancer un peu plus.
Ouais, mais ça, bah, à mon avis...
Ça a beaucoup de sens dans le jeu du Seigneur des Anneaux.
Bah là, je pense qu'il y en a aussi, parce que du coup, c'est pareil, il faut que tu gardes des bonhommes pour... spécialement pour cette phase-là, parce que quand t'es rebelle, faut pas le rater. Parce que, à mon avis, c'est
thématiquement
dans le jeu.
Thématiquement, ça veut dire quoi?
Bah, il y a des affrontements. Je sais pas. C'est... j'en sais rien.
Voilà, on est d'accord.
Les Jedi qui recrutent, j'en sais rien. C'est l'équilibre de la force.
D'accord. Ouais. Et ils ont mis combien de temps pour revenir à ça?
Un an.
Un an pour revenir sur la règle.
Ouais, c'est ça. Et à mon avis, là-dedans, il y avait plein de trucs qui étaient... Enfin, ce côté-là, il était déjà pris d'avant, hein. Je pense qu'ils ont recyclé.
On a un nom de l'auteur?
C'est Eric M. Lang, qui est donc l'auteur de, notamment...
Le Trône de Fer.
Ah bah, nouveau.
Je me trompe là.
Non, c'est Peterson, le Trône
de
Fer.
C'est Peterson.
Oui, enfin bon, c'est
non,
bon.
Non, Lang, c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux, JCE. Mm.
Ils sont frères et sœurs, ils font tout là-bas, donc...
Oui.
Ouais, c'est leurs auteurs maison.
Mm. Oui, voilà, donc, mais bon. Après, ça marche, en général, surtout pour les Américains. Le deck building, pourquoi un deck building
Parce que c'est dans le vent.
Enfin, ouais, mais c'est pas un deck building pendant la partie. Moi, je l'appelle deck building. Tu construis ton deck pour jouer comme à.
C'est pas du deck building alors.
Ouais. Oh, moi, je dirais que si. Non, toi, deck building, c'est que quand tu.
Non, mais je suis pas d'accord. Hein. Le Seigneur des Anneaux, tu crées ton deck aussi avant la partie. Donc,
comme dans Magic.
Et ben voilà, et ben, c'est un deck building aussi. Et les deux, c'est des JCE qui évoluent.
Ah,
ok.
Ouais,
c'est juste parce qu'on colle des nouveaux noms, mais.
Non.
Bon, bref, comment est-ce qu'on. D'accord, bon, bah c'est pas un deck building.
Alors, je vous demande de mettre des commentaires sur le site et d'allumer notre ami Jérémy pour lui expliquer que c'est pas un deck building. Je t'écoute.
Comment on construit son deck? Ils ont voulu faire quelque chose de très simple parce qu'ils sont conscients en fait que ça a été un obstacle, je pense, notamment pour
le trône de fer.
Pour le Seigneur des Anneaux, etc.
Pour non, c'est pas un obstacle pour le Seigneur des Anneaux parce qu'il n'y a pas assez de cartes et en fait, le choix est assez.
Et bah là, ça va être encore plus simple. Tu choisiras ta carte d'affiliation, évidemment. Donc, à mon avis, faut pas que les deux joueurs soient du côté rebelle, ça ne marche pas. Et tu choisiras des groupes d'objectifs. Tu en choisiras 10. Dans chaque groupe d'objectifs, tu as en fait, il y a 6 cartes, il y a un objectif et 5 cartes qui vont avec.
Ah, c'est du préconstruit.
Donc, ouais, tu assembles en fait des.
Et bah ça, c'est pas mal.
Donc, c'est presque du deck building.
Ouais, c'est pas mal. Non, pas du tout. Mais c'est pas mal.
Les gros joueurs, justement, ceux qui voulaient avoir le contrôle sur leur deck.
Moi, j'ai bien aimé le jeu du Seigneur des Anneaux parce que justement, tu n'avais pas cette difficulté de construction au début en disant si je veux le sortir avec quelqu'un qui ne connaît pas, on peut construire. Tu vois, j'exagère quand je dis que le choix des cartes est plutôt forcé, mais quand tu as ton personnage, après, c'est assez facile de pouvoir créer le deck autour. Je n'ai pas voulu me mettre dans le trône de fer justement parce que je me suis dit je ne vais pas jouer régulièrement. Je ne vais pas jouer contre des gens qui jouent régulièrement. Et donc, après, faire de la construction de paquets en avance de phase, ça va me prendre 2 heures pour faire mon paquet. Et l'affrontement va durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Et je vais passer plus de temps. J'avais pas trop envie, quoi. Donc là, c'est pour ça que pour moi, c'est bien. Et après, effectivement, la question se pose pour les hardcore gamers.
C'est quand même la partie peut-être la plus intéressante, la plus motivante pour les hardcore gamers. Enfin, ouais, je pense à Magic notamment, où tout ce qui se fait en amont, la préparation du deck, c'est là où c'est vraiment intéressant. Rechercher la bonne combo, l'équilibre de son jeu, etc.
Et s'adapter au metagame. Et justement, mais là, ils disent justement, c'est pour changer. On n'aura plus à mesurer les forces et faiblesses de chaque carte, mais il faudra le faire, au contraire, par groupe, etc.
Avec une vue d'ensemble.
Voilà. Bon, après, ça sera pareil, hein, malgré tout.
Bon, c'est pas coopératif, ça m'intéresse plus.
moi, j'aime le côté ce qui m'intéresse, c'est le côté asymétrique et le fait qu'on puisse construire facilement des decks. Mais bon, ça reste. Après, il faut aimer du jeu de cartes. Il y a quand même, à mon avis, plein d'éléments qui seront à prendre en compte, etc. Même si c'est simplifié, les combats. Ouais,
avec une licence comme ça et une force de frappe, je me fais pas trop de soucis.
Non. Et il est pas très technique, à mon avis.
Quand est-ce que c'est prévu pour ?
Il n'y a pas encore de date annoncée.
D'accord.
Il commence déjà à faire du teasing sur le site de Edge. Là, je vous ai résumé en fait un article qui présente tout ça. On peut penser début 2013. La version FFG, à mon avis, est plus qu'en route.
Sachant que les règles sont en ligne et que vous les retrouverez sur le site.
Les règles en anglais, ouais.
En anglais.
Les règles FFG sont en ligne. Voilà. Et dernière chose, je n'ai pas dit, la boîte de base, elle contient 4 decks préconstruits, 2 de chaque faction. Évidemment, il faudra bien commencer. Et qu'on sait déjà que dans les extensions, d'autres factions vont arriver. Donc, il y aura les contrebandiers espions ou bien les racailles et scélères.
Les Ewoks ?
Ouais, bien sûr, ils sont contrebandiers, les Ewoks.
Et bah ça, c'est comme pour le Seigneur des Anneaux, tu fais des paquets Hobbits. Et des fois, ça marche.
Donc, Star Wars, le jeu de cartes, c'est un jeu pour 2 joueurs à venir chez Edge, sans doute, premier trimestre 2013.
30-35
le prix ? 35 euros, oui, je pense. Ce sera sans doute à partir de 12 ans et pour un public, je pense que c'est plus simple qu'un Seigneur des Anneaux, mais ce sera quand même un public déjà un petit peu initié, je pense, pour ça.
Oui, un JCE où on a des facilités à construire notre deck. Dans notre guide d'achat, on vous a conseillé d'acheter Le Petit Poussé, qui est un jeu de Corentin Lebras
et Gilles Lehmann.
Et qui est un jeu de mémoire, mais dynamique. C'est-à-dire, on a des lieux qu'on doit retrouver, un joueur actif qui distribue des cartes aux autres joueurs pour retrouver des lieux. Et puis, c'est un jeu de mémoire plutôt classique, très beau, mais dynamique. Et l'éditeur a mis en ligne des variantes, plusieurs variantes, qui complexifient, à mon sens, le jeu, fait en sorte qu'il y ait plus de changements de tuiles, moins de possibilités d'avoir des informations, ou qui fait venir l'ogre plus vite. Donc, on vous mettra ça sur le site de Proxy Jeux, qui est podcast pour un proxy avec un i-jeu avec un x.fr, des variantes pour le petit plus, c'est l'obscure forêt.
Et puisqu'on parle de Libellule et de leur site, ce que j'aime bien, moi.
Et parce qu'ils font des très très belles choses.
Ouais, et alors on aime bien leurs illustrations. Et donc en fait, ils ont mis en général, si vous allez sur les fiches des jeux sur leur site, vous avez toujours un petit onglet ressources. Et sur lequel, ils vont vous glisser un petit guide, en fait, et ils montrent la genèse de certaines de leurs illustrations.
Avec des crayonnés qui deviennent
mis
en couleur, j'adore ça.
Donc ça permet de faire, c'est gratuit, ils donnent ça comme ça, et je trouve c'est un joli bonus, ça fait durer le plaisir.
Est-ce qu'on peut les mettre en fond d'écran ?
Les crayonnés ?
Oui, non. Les croquis ?
Non, mais par contre...
C'est du PDF ?
Ouais.
D'accord.
Ouais, c'est un PDF, puis ils sont pas assez grands, je pense, pour les mettre en fond d'écran. Par contre, tu peux trouver... Enfin, après, ils ont aussi pas mal, ils ont tous les packs d'images des jeux. Donc, si t'aimes bien les jeux, tu peux les mettre en fond d'écran, je pense.
Sur ton téléphone, au pire.
Dis, monsieur Libellu, fais des fonds d'écran. Mais oui, il y a des fonds d'écran. Il y a plein de fonds d'écran sur le site aussi.
Il y a ceux de Naya, de Marie Cardois.
Ouais, j'aime beaucoup Marie Cardois.
Dans ressources.
Voilà.
Mais elles sont... Voilà.
Donc n'hésitez pas, si vous voulez des super fonds d'écran, vous allez sur www.libellule.com dans la rubrique ressources et vous aurez du Naiade et du Cardois et ça, on aime bien.
En plus, ils ont sorti récemment, alors je ne sais plus la date exacte, mais
Sticky Sticks.
Un jeu qui se joue avec des petites ventouses et des tuiles à attraper et des dés spéciaux. C'est un jeu coréen à la base qu'ils ont repéré à Essen l'an dernier, si je ne me trompe pas, et qu'ils ont ressorti avec un joli packaging, donc le jeu est inchangé. Donc le principe, c'est très très simple. Hein, vous lancez des dés spéciaux qui font des symboles qui sont représentés par les tuiles du plateau. Chacun a sa petite ventouse avec un petit bâtonnet au bout. C'est un jeu de rapidité. Il faut attraper les bonnes ventouses et surtout pas se tromper. Sinon, on a des malus.
C'est une blague ?
Non, c'est pas une blague.
C'est un plagiat, ça.
Ça fait penser à Dino Boom.
Bah oui.
Ah, alors je ne connais pas Dino Boom.
On lançait les os et il fallait l'attraper avec les fléchettes.
Oui, en fait, tu lances des critères et il faut que tu appuies avec ta ventouse sur l'image qui représente un ou plusieurs dinosaures. En fait, tu as des menus. Et...
C'est exactement ça. Ouais.
D'accord, c'est un plagiat. Okay.
C'est normal parce que c'est un jeu coréen et par défaut, les Coréens
ils n'inventent pas.
Je pense qu'ils sont un peu sûrs de leur coup, Libellule, quand même. Ils ont dû se renseigner avant.
Eh bien, nous verrons bien. Si le juge sera aussi impartial que toi. Bref. Ok, donc Sticky Sticks, non, on va peut-être pas en parler.
Bah si, pourquoi pas.
Donc Sticky Sticks est arrivé chez Libellule.
Par hasard, l'an dernier, ça nous avait bien plu, parce qu'il nous avait filé une boîte.
C'était sorti chez Goldzieber, Dino Boom.
Mais c'est peut-être plus édité, donc c'est une façon de trouver c'est un chouette jeu.
La boîte était en plastique dur, en fait, donc du coup, ça craint pas grand-chose, tu peux y aller, c'est pas du thermoformage à deux balles.
Parce que le problème...
Parle dans ton micro. Oui, parce qu'en fait, les tuiles sont sur le
Sont dans la boîte. Ouais, c'est vidé au niveau de la partie centrale. Tu lances les dés, ça fait une sorte de petite piste à dés. Tu lances les dés dans la partie centrale. Tout le monde est autour de la boîte, avec sa ventouse, prêt à attraper la tuile. Et donc, c'est vraiment un pur jeu de rapidité. C'est assez marrant, ça fait des parties rapides. Et on n'a qu'une envie, après, c'est d'en faire une.
Ok, bon, bah, tu nous l'as bien vendu.
Sticky Stick, c'est un jeu de Dave Scholl, donc chez Libellule, pour 2 à 5 joueurs. À partir de 8 ans et 10 minutes.
Ouais, autant dire qu'à 2, c'est pas très intéressant.
Non, et pour 25€.
Ça fait un moment qu'on vous a pas parlé de Geek and Sundry. Ça fait un moment qu'on vous a ni parlé ni de Tabletop, ni de Felicia Day, ni de quelqu'un d'autre, de Will Wheaton. Eh bien, nous avons un petit commentaire. Je ne sais plus du tout comment est-ce qu'on nous l'a transmis, si c'était par mail ou sur Twitter. Je ne sais plus qui, d'ailleurs. Alors, je suis désolé. Toi qui m'écoutes, je te remercie vraiment de nous avoir envoyé ce lien.
C'est pas Grégory ?
Si, c'est Grégory. Merci, Grégory. Donc alors, il nous a parlé de On the Table. On the Table, c'est une émission, c'est la 5e saison, donc ça fait un bail maintenant qu'ils font qu'ils nous parlent de jeux de société, et puis plus précisément de Wargame. Et là, visiblement, l'émission a changé, puisque comme ils ont rejoint le portail Geek & Sundry, ils se sont mis à nous parler de l'actualité du jeu de société, faire un petit peu comme Proxy Jeux, et en 15 minutes, vous avez du jeu de figurines, du Wargame, du jeu de cartes. Il nous parle d'ailleurs de Star Wars, de Card Game, du jeu de plateau, du jeu de rôle et même de crowdfunding, puisqu'ils vont pointer les projets qui sont intéressants à aller sponsoriser. Donc, c'est bien, c'est concis, c'est court, c'est bien. Ça dure un quart d'heure, pas plus. Le gros problème, c'est que c'est deux en anglais. Vous pouvez avoir des sous-titres parce que c'est sur YouTube et que vous pouvez avoir les sous-titres en anglais, c'est déjà ça. Puis ça complète bien, c'est assez léger, il passe beaucoup, beaucoup de choses en revue et forcément, c'est très superficiel. Mais voilà, ouais, allez jeter un œil parce que c'est pas mal. Petite précision sur Geek & Sundry, c'est un portail, on vous en avait parlé, parce qu'ils ont été sponsorisés par Google. Google qui voulait faire du contenu sur YouTube.
Oui, ils espéraient pouvoir concurrencer la télé normale.
Ouais. Du contenu de qualité, parce que du contenu, il y en a, mais sur YouTube.
Ouais. Ils voulaient vraiment faire style show télé. Mais ça, parce que c'est vrai qu'en même temps, il faut savoir qu'ils se lancent un peu, ils vont bientôt se lancer dans la guerre Google TV et autre machin.
Bah de toute façon, enfin, l'initiative a été saluée par Forbes quand même. Hein. Et justement, Felicia Days, qui est derrière tout ça, elle a été quand même plutôt saluée par la critique sur cette initiative-là.
Ouais, bah, On the Table, on dirait vraiment une émission télé, hein, telle que c'est fait. Oui, vraiment, ça pourrait passer à la télé.
Quand t'as un peu d'argent et du temps, voilà. Et quand t'as beaucoup d'argent, ça va mieux.
Par contre, a priori, pour l'instant, les résultats sont pas au rendez-vous. La vidéo la plus vue sur YouTube, c'est loin d'être une chaîne de télé Google.
Sur On the Table. Où il y avait.
Non, mais en général, tout ce qu'a essayé de lancer, parce que je rappelle que Google a mis de l'argent sur la table, hein, ils ont mis presque 500 000 dollars à 1 million de dollars par show pour lancer tout ça. Et a priori, pour l'instant, l'audience n'est pas au rendez-vous.
Tabletop, tu peux regarder ? Non, je vous rappelle, pendant que Jérémy, c'est du live, il regarde un petit peu combien du clic, du hit ont été faits sur Tabletop
Small World, c'est 839 000 vues.
C'est pas mal, 800 000 vues.
C'est pas mal pour du jeu de société.
Ah, ouais. Il faut pas oublier quand même que le jeu de société, c'est quand même quelque chose, c'est une niche.
Non, donc, mais je bon. Après, Fiasco, ça a fait 280 000, Munchkin, 500 000.
200 000 et 500 000. Ok.
Dixit 195 000, tu vois. On est plutôt dans les 200 000 en fait, après sur les autres. Parce que je pense que Small World, c'est un des premiers. Sinon, le premier d'ailleurs.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'il cartonne autant. Les autres, après, on est plutôt en dessous des 200 000. Ou 300, ça dépend.
Ce qui est déjà pas mal.
C'est pas mal du tout.
Je suis content quand on fera ça.
Mmh. Oui, forcément.
Il faudrait qu'il en glisse une petite pub dans Big Bang Theory. Ouais. Ça devrait marcher.
Ouais. Alors, Geek & Sundry, c'est un portail. Donc, on a Dark Horse Motion Comics qui parle bien sûr de comics, The Flog qui est un vidéo blog de Felicia Days, The Guild, alors si vous connaissez pas The Guild, il faut aller les voir, mais ça n'a rien à voir avec le jeu de société, mais c'est vraiment super sympa. Tabletop, On the Table, dont on vient de vous parler, et puis il y avait également Written by a Kid. Dans chaque épisode, il y a un enfant qui raconte une histoire. Bon, voilà. Donc, beaucoup de sujets, des sujets très variés, mais avec une production, une qualité de production qui est forcément au top. Je suis un peu déçu que ça ne marche pas. On the Table, vous pouvez trouver ça, retrouver ça deux fois par mois. C'est sur le portail Geek & Sundry. Et si ça vous plaît pas, bah, allez voir The Guild. On reste en Amérique, on vous parle de Philosophia.
Philosophia, alors Philosophia qui notamment recrute. Il cherche...
En Amérique ?
Non, mieux. Il recrute un poste pour l'Europe, pour faire notamment les salons. Donc si vous aimez bien faire Essonne, côté exposant, qui est à mon avis beaucoup moins fun que le côté visiteur, voilà, Philosophia, donc c'est un poste, a priori, il demande à être assez mobile hein, et assez prêt à se déplacer quand même au moins 10 week-ends dans l'année.
Oui, parce qu'il y a Essonne, il y a Cannes, il y a Nuremberg, il y a pas mal de choses. À peu près, je pense pas qu'il nous envoie de l'autre côté de l'Atlantique. Non, et il y avait Martin Bouchard, en fait, cette année à Essonne.
Ouais, comme tous les ans.
Avec les poches, les yeux du décalage horaire. Et, et puis c'est surtout, oui, effectivement, c'est pas très glamour de préparer des salons comme ça.
Ouais, mais on a vu, ils ont raison d'y être, puisque
bien sûr.
C'est là où tu signes les contrats.
Ils ont raflé quand même des belles choses. Donc,
Sophie a été bien active.
Ah ouais, ils ont ramené.
Bah, Martin, pour le coup.
Oui, mais il y avait Sophie aussi.
Ouais, ils étaient tous les deux.
Les deux étaient là. Donc. Sur le stand de Zeman. Bah, de temps en temps, parce qu'elle naviguait quand même pas mal entre les stands.
Moi, c'est pareil, Martin, on l'a aperçu, mais c'était plutôt à la cafette. Je peux finir mon poste ? Non, rapidement. En fait, le poste, a priori, il est basé à Versailles, donc région parisienne. Le but, c'est de recruter et de former une équipe d'animateurs, et donc effectivement d'organiser un certain nombre d'événements ludiques, notamment à travers la France.
Et ça, quoi, jusqu'à présent, Philosophia n'était pas très présent sur les salons.
Si vous rêvez de travailler dans le monde du jeu de société, sachez que les opportunités, il n'y en a pas si souvent que ça. Pas si souvent que les éditeurs recrutent pour
petit
des
milieu.
Postes un petit peu comme ça, non, mais pour aller faire du salon, etc. Par contre, bon, faut pas avoir trop de vie familiale hein, pendant 10 week-ends par an, c'est quand même beaucoup, parce que quand on dit week-end, souvent, vous commencez un ou deux jours avant.
C'est
et
des
ça
week-ends
finit...
complets, ouais, c'est des week-ends au sens large.
Un Cannes, par exemple, à mon avis, ou un Essen, c'est presque une semaine que ça veut vous manger. Mais ça peut être, à mon avis, l'occasion. Par contre, je pense qu'il vous faudra montrer une petite culture déjà du jeu de société.
Je pense que c'est un gros plus, effectivement.
Parce que si vous écoutez le proxy jeu, ça ira bien.
Les postulants vont être nombreux aussi. Donc, dans ces cas-là, si ça vous plaît, bah, il faut envoyer votre CV, votre lettre de motivation, ou votre mail de motivation à martin.bouchard@philosophiagames.com.
Mais c'est plutôt bon signe, je pense. Enfin, ça montre que Philo veut s'implanter en France et développer ses activités.
C'est bien, ça leur manque, je trouve. Ouais. Ils avaient avant un service un peu chargé com, mais qui s'est arrêté il y a un ou deux ans.
Ouais, et qui faisait tout depuis Québec.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est bien qu'ils reprennent pied à nouveau. Surtout vu toutes les belles choses qu'ils nous prévoient.
Oui, c'est surtout ça. Ouais.
Il est temps qu'ils reviennent un peu en force.
Puisqu'on parle de Philosophia, je voulais vous parler de Love Letter, qui est un jeu assez atypique, puisque c'est une quinzaine de cartes. Et c'est un jeu dont je vais vous parler dans le 37B, donc dans une semaine. Donc voilà, donc vous allez attendre une semaine et puis on vous en parlera.
Oh, c'est dur.
Quel teasing.
Ouais. N'est-ce pas ? On peut signaler aussi, puisqu'on est en train de parler de Philosophia, que Philosophia ayant récupéré Z-Man Game, et ça a beaucoup bougé, à Essen on l'a vu, mais ça a beaucoup bougé sur le continent nord-américain, et notamment sur la distribution, puisque Z-Man Philosophia a récupéré la distribution de Carcassonne.
Bah, les jeux... les jeux...
Hansim Gluck,
parce qu'ils ont déjà la distribution de Carcassonne en France, enfin en français même tout court. Et donc, ouais, ils ont prolongé ça avec. Ils ont raflé en fait un partenariat qu'il y avait avant entre Rio Grande quand même et.
Un partenariat exclusif, ouais.
Hansim Gluck. Ouais, ça fait mal quand même, hein, je trouve, pour Rio Grande. Parce que surtout, bon, il y a Carcassonne, ok, admettons, mais il y a 2 millions aussi dans l'affaire.
2 millions, ouais.
J'aurais bien des chiffres parce que je pense que Carcassonne, ça s'en met aussi.
Hein. Mais le dernier 2 millions, par exemple, Dark Ages, il est encore sorti sous licence Rio Grande.
Rio Grande.
Donc, par contre, et du coup, dans tout ça, ben oui, effectivement, Rio Grande avait normalement gardé des ouvertures sur certaines extensions Carcassonne qui finalement
ne verront sans doute pas le jour.
C'était les mini extensions Carcassonne.
Si, ça va sortir ça.
Oui, ça devrait
mais toujours
sortir
chez Rio Grande.
Oui, justement. Mais ça, ils ont traîné quand même. Et puis il y avait une extension pour la version A2 de Carcassonne qui doit pas exister en France, qui était un Rainer Knizia.
Ouais.
Le château, là, ouais, d'Ibrucker. Ouais,
effectivement,
qui existe aussi.
Elle n'a pas été francisée, il n'y a pas de texte dessus, mais elle n'existe pas.
Sortie trop tôt, à une époque où on francisait encore pas trop les jeux. Et donc, a priori, il y avait une extension, et donc, comme elle ne sortira pas, Knizia a dit qu'il allait voir s'il ne pouvait pas la sortir par un autre biais de manière gratuite en téléchargement. Mais je pense qu'il y a des démêlés avec les contrats et tout, donc il faut qu'il récupère les droits dessus, ça ne va pas être simple. Ouais, ou chez Spielbox, peut-être, pourquoi pas. Ouais. C'est quelqu'un de connu, il a le bras long.
Ouais, c'est possible. Dans un tout autre registre, je voulais vous parler des BGG Awards, puisque la saison des prix n'est pas finie. Board Game Geek fait également son prix ludique après les trois listes, après l'As d'Or, après tout ça. Et on va les passer un petit peu en revue, on va aller vite, parce qu'on retrouve, effectivement, c'est ce que disait Thomas, on retrouve à peu près les mêmes jeux. Alors, à votre avis, le jeu de l'année pour Board Game Geek ?
C'est Van Wonders ?
Non, c'était
une alors, année, et en 2012, alors le jeu de l'année, j'ai Board Game Geek.
Ben, j'ai vu la réponse, alors, mais je l'aurais, okay. pas, je l'aurais pas cité en fait. Je l'aurais pas, j'aurais pas pensé que c'était lui.
Moi non
lui.
Plus, j'aurais pas mis un jeton dessus.
Et on sait toujours pas ce que c'est. En 2012, le jeu de l'année chez Board Game Geek, c'est Eclipse. Toujours le 4X qui a été récompensé déjà. C'était à l'IGA.
Oui.
Non, l'IGA,
tu peux, parle plus fort.
À l'IGA, c'est les trois, c'est Trajan qui a eu.
Alors c'était.
Donc c'est au 3 lys.
Au 3 lys.
Justement, j'étais content qu'il ait un prix parce que c'est un jeu qui mérite. Voilà. Et je suis étonné quand même que de devoir rafler ce genre de prix.
Le meilleur jeu abstrait. Alors ça, c'est rigolo. Kingdom Builders.
Ouais, en jeu abstrait, il y a mieux quand même.
Ouais, ah, mais c'est rigolo.
Il y a pas de. Nous, quand on a préparé notre guide de Noël, on a cherché des jeux abstraits sortis en 2012. On a finalement préféré ne pas mettre la catégorie parce qu'on n'a pas.
Ouais, mais c'est un petit peu délicat quand même de considérer Kingdom Builders comme un jeu abstrait.
Ouais, mais c'est qu'il y a tellement peu de jeux abstraits qu'en fait, on est là. On parlera plus tard de Keen, on verra, c'est pareil, on est à la limite du jeu abstrait
sur
ce genre de jeu.
Pour rappel, Kingdom Builder, c'est le Spiel des Jahres, le jeu de l'année en Allemagne en 2012. Et bon, bah là, c'est le meilleur jeu abstrait. Alors attention, parce que Board Game Geek, c'est le site de référence, le plus gros site ludique américain. Donc c'est vraiment un public qui est quand même...
Et même presque international. Hein.
Ouais, mais je pense qu'il y a quand même un gros lectorat américain.
Et il faut rappeler que sur ce prix-là, ce sont les internautes qui votent aussi. Ouais. Les utilisateurs de BGG.
En 2012, le meilleur jeu de cartes.
Netrunner.
Eh oui.
Mais là, c'était facile. Hein. C'était
un jour.
Là, c'était couru d'avance avec le buzz qu'il a fait, notamment à la Gen Con, où on voyait les gens qui couraient à travers le salon pour récupérer leur boîte.
Eh ouais, vivement qu'ils sortent en France. C'est un de mes jeux préférés.
Mais oui, mais moi, je l'ai. Il faut que j'y joue.
Et moi, j'y ai joué. Oh ! Avec des erreurs de règles, mais j'y ai joué.
À la version la nouvelle ?
À la version FFG en anglais, oui.
Donc, a priori,
vous ne connaissiez pas le jeu de 96 ?
Non.
Si, moi aussi.
Bah oui.
Et bon.
Donc on a fait des erreurs de règles, donc j'attends une deuxième partie pour confirmer.
D'accord, mais...
Donc notre partie était biaisée, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet.
On te réinvitera pour en reparler.
Meilleur jeu pour les enfants, qui est aussi le meilleur party game, donc jeu d'ambiance et le meilleur jeu pour la famille.
Monopoly
bravo.
Smash Party.
Quoi ? Monopoly Smash Party. Je dis bravo à Yellow, puisque c'est King of Tokyo.
Ah bah oui, c'est un jeu de Richard Garfield.
Ouais.
Ça aide.
Non mais c'est bien, j'aime bien Kingdom Tokyo, c'est un jeu de dés, un jeu de baston, c'est simple.
T'es pas déçu que ce soit pas ton jeu là, ton Quarriors qui rafle quelque chose.
Et ben tu vois, en fait,
pas un party game.
Mais... Ouais, encore une fois, j'ai du mal avec le classement. Par King of Tokyo, je vois bien l'intérêt, mais party game, ça me fait tiquer un peu.
Non, j'ai ressorti Quarriors last weekend et en fait j'ai acheté les extensions. Et avec les extensions, ça devient un vrai jeu beaucoup plus technique. Ouais. Et c'est plus le même jeu, en fait. Mm. Alors que là, King of Tokyo, c'est quand même... qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fous des baffes ou est-ce que je fous des baffes ? Bon, bah
oui,
d'accord.
Ça reste très basique.
Voilà. Ah, c'est...
J'ai toujours pas joué fort. Hein.
Ouais. Alors, à savoir quand même qu'il y a des multiclassés qui sont aussi... Enfin, Netrunner, on en a parlé, c'est aussi meilleur jeu à deux. Que Eclipse, c'est aussi le meilleur jeu de stratégie.
Que King of Tokyo, c'est aussi un meilleur jeu de famille.
Oui,
ça va aussi avec les jeux pour enfants. Ah, pardon.
Oui, que c'était famille, party game, et puis pour les enfants. Donc c'est... Mais ça va bien ensemble. C'est... Et alors, bah, tu te demandes s'il n'y avait pas d'autres party games. C'est un petit peu comme pour le meilleur, les jeux abstraits. Mais bon, pour le coup, ça ne me choque pas. Alien Frontier, Factions, la meilleure extension. Meilleure illustration, Takenoko.
Ouais, ils auraient pu mettre Seasons aussi.
Oui.
Peut-être sorti, je sais pas.
La French Touch, on s'en fout. C'est bien, c'est
mais
bien.
C'est la preuve que ouais, c'est forcément un Français qui rafle.
Et le
plus
most
innovant.
Innovative game, c'est Risk Legacy. Et
t'as
moi,
pas
j'adore.
Fait trop d'anglais. Bah, c'est plus Risk Legacy.
Non, mais là
c'est un prix anglais, t'as pas trop le choix.
Voilà. Donc, Risk Legacy, si vous ne connaissez pas ce jeu, on vous renvoie au numéro d'actu qu'on avait fait avec Antoine Boza. Il nous a fait découvrir ça. Ça reste un risque, mais avec tout un metagame qui est autour, avec des paquets de factions qui arrive en cours de partie avec des cartes qui sont ajoutées avec des stickers qu'on colle sur le...
Je dirais un mystère au début. Quand tu ouvres ta boîte et tu vois tous ces trucs, tu dis « Oh là là, vivement
c'est
que je les ouvre !»
Ouais. En fait.
Ouais, mais par contre, quand tu dis aux gens « C'est un risque », j'ai du mal, je les fais fuir malheureusement.
Et t'en es où toi, Jérémy ?
J'ai fait qu'une partie pour l'instant, parce que On a fait la première, je pense, un peu avant Essen, donc après, malheureusement.
T'es parti sur une campagne ?
Il y a le vent Essen. Ouais, bah forcément. Hein,
15 parties d'affilée.
Bah, on n'en a fait qu'une pour l'instant. Mmh. Et voilà, j'ai déjà mis mon nom une fois sur le plateau. mais ça m'a bien plu, malgré tout. Ça reste du risque, mais les petites adaptations qu'il y a dans le jeu font déjà que c'est un petit peu différent sur la façon de la stratégie de conquête. Et après, par contre, on voit tout de suite, on a déjà commencé à poser quelques stickers. Mmh. Je sens déjà que la deuxième partie va commencer à être... Enfin, tu vois, il y a des territoires, tu sens déjà que du coup, ils vont bouger,
changer de main.
Ça va être différent.
Et donc, le prix n'est pas volé ?
Alors, c'est quand même cher, hein, 65 euros. Maintenant, je te dis, moi, si tu fais 5, si tu non, fais 15
ludique.
Parties...
Le prix ludique.
Ah, pardon, le prix ludique. Non, parce qu'en Allemagne, il était à 35 quand même, le risque.
Ouais, mais en Allemand.
Donc, je pense effectivement qu'en termes d'innovation... Enfin, je pense qu'il y a eu d'autres... J'ai du mal comme ça à froid, enfin à dire si il y a d'autres jeux qui sont innovants, mais effectivement, ça rénove bien en tout cas. Mmh. C'est le most rénovative game.
Donc voilà, et puis une catégorie print and play, puisque il y a des print and play sur Board Game Geek, j'aimerais bien vous faire un dossier là-dessus, mais je n'arrive pas. D&D Dice, dont on vous a déjà parlé. Donc Eclipse,
c'est bien, elle est bien effectivement.
Meilleur jeu, King of Tokyo pour la famille, pour l'ambiance. Netrunner, qui est le meilleur jeu de cartes et jeu à deux. Et puis Takenoko, qui a été récompensé pour ses graphismes. Risk pour son côté innovant. Et puis D&D Dice, parce qu'il a un petit trial en print and play. En imprime et joue. et alors j'ai bien aimé parce qu'en fait ils font pas que du Board Game Geek Award, ils font aussi du Video Game Geek Golden Geek Award. Ça, c'est un peu compliqué, donc en fait ils ont fait aussi des prix pour les jeux de vidéo. Et alors voilà, on va passer vite parce que c'est pas notre cœur de métier.
La catégorie mobile,
le jeu de l'année, Skyrim.
Skyrim, très bon jeu.
Le meilleur visuel, alors moi j'ai joué sur Xbox.
Bon. Ah, moi j'ai joué sur PC, c'est une grosse claque quand même.
Ouais, c'est quand t'es en haut des montagnes, c'est joli, mais...
Ah non, je suis pas d'accord.
Mais c'est l'Xbox, c'est une vieille console. C'est un vieux PC. ce qui nous intéresse le plus, c'est meilleur jeu mobile en 2012, et c'est...
Summoner Wars.
Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Effectivement, il le mérite, parce que déjà, quand il est gratuit, tu peux déjà jouer rien que ça. C'est...
Déjà, le jeu c'est est très bien, mais le portage est très bien, effectivement. Ouais.
On en a déjà parlé dans un épisode de Proxy, il y a quelques mois, je sais plus.
Voilà, BGG Awards sont annoncés. On retrouve un peu les usual suspects de cette année. Eclipse, Netrunner.
Qui sortira en français l'année prochaine, donc patientez un petit peu.
Netrunner
en français, ouais. On en parlera à ce moment-là, je vous ferai une rétrospective.
Ouais, d'autant qu'il y a beaucoup de textes dessus.
Et puis Summoner Wars, dont on vous a déjà parlé.
On en avait parlé il y a un bon moment. Je dirais que c'était dans la première saison Proxy Jeux. On avait fait un petit peu le tour des différents magazines qui existent, qui parlent du jeu, etc. Et notamment, il y avait Hystari qui sortait son mag. Alors le précédent, le numéro 1, est donc sorti en printemps 2011. Et donc le numéro 2 vient enfin d'arriver à automne 2012.
On peut préciser.
Ils avaient annoncé au début que le rythme de publication serait...
Apériodique.
Apériodique, effectivement. C'est quand ils auraient le temps, entre deux projets, de faire ça.
Voilà, donc là, c'est du apériodique annuel.
On peut préciser quand même que c'est un magazine papier. C'est pas, alors on pourra certainement l'avoir en PDF, mais on le trouve dans les magasins en dur.
Voilà, les boutiques viennent de le recevoir. Par contre, en téléchargement, il n'est pas encore sur leur site. Il n'est même pas annoncé. Ils ont même pas dit
qu'il était sur leur site. N'est pas toujours très à jour.
Ben non, j'imagine qu'ils ont d'autres choses
mais
à faire.
Mais c'est prévu. Il sera en PDF disponible en téléchargement. Voilà, après, donc. Par contre, comme le pendant chez Edge, c'est plus de la publi-information que du magazine.
Non, mais oui, c'est la propagande.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Il faut quand même le préciser.
J'ai choqué Thomas.
Non, mais... Tu parles de magazine, savoir ce qu'on se comprend. C'est gratuit.
C'est de la publi-formation. Mmh. Information. Mais ceci dit, j'ai pas de nouvelles du nouveau catalogue de Edge, qui ne va pas tarder à sortir. Hein. Ce sera le catalogue été, j'imagine.
Printemps été 2012.
C'est un marronnier, je pense.
Je rigole toujours, mais c'est souvent, ils ont aussi un décalage qui fait que souvent, ils sortent un décalage de saison. Bon, bref, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le Hystari Mag rapidement, en fait, ils présentent évidemment leurs nouveautés. Notamment Myrmes, une présentation, une interview de Johan Levet. Ils parlent des stratégies. Ils sont vraiment,
c'est bien ça.
Et puis, c'est aussi tourné sur Serenissima, la réédition de Méditerranée, avec une interview de Dominique Erhard. Et puis, ils présentent Sherlock Holmes. Alors ça, je pense, c'est un article qui date d'il y a un an, qu'ils mettent maintenant.
Mais t'es sûr que c'est une présentation ? Il n'y a pas un scénario bonus ?
Alors, en parlant de scénario bonus, par contre, il y en a un qui va sortir, là.
Oui, encore comme...
Comme l'année dernière, ouais.
Il y a Carlton House qui va sortir aussi.
Oui, c'est aussi, qui est en lecture actuellement.
C'est ça.
C'est tout, mais c'est déjà pas mal.
Bah voilà, c'est un bon complément. En fait, non, il sort maintenant, c'est un complément des jeux qui font l'actualité chez Istari.
Et ils annoncent notamment Puerto Rico Deluxe.
Et Puerto Rico Deluxe,
qui était attendu par beaucoup de monde en version française.
Mais c'est la version jubilée, là, qu'ils ont sorti l'année dernière.
Celle qui était sortie en allemand l'an dernier.
Mais j'étais déçu, elle a quoi elle a de chose. Plus
Elle a des gros bateaux, à la place des petits bateaux pour charger les marchandises. Bon, je crois qu'il... Alors, si j'espère que je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a des vrais doublons en métal.
Ouais, d'accord, mais ça ne rénove pas le jeu.
Non, non, le jeu, c'est pas transcendant.
Non, mais les bâtiments, j'étais déçu, ils n'ont pas été illustrés.
Oui, ça, c'est un peu... C'est
des Allemands.
C'est le gros point noir, quand même.
McLeod.
Pour une version collector, on s'attend à quelque chose... Surtout Puerto Rico, c'est le genre de jeu que je sors encore.
Et Puerto Rico, son seul défaut, c'est d'avoir des tuiles moches, quand même. C'est juste du texte dessus.
C'est fonctionnel.
C'est fonctionnel, effectivement.
Surtout le mien qui est en allemand.
Mais on trouve des petits stickers sur Internet.
Ouais, non, mais je ne vais pas dénaturer.
Avec les illustrations de San Juan.
Ou des aides de jeu à mettre à côté. Ouais, j'ai une pile comme ça dans la boîte, justement, pour donner l'aide de jeu à chacun.
Ouais, mais du coup, j'ai pimpé le mien.
Ah ben voilà. Il y en a qui ont racheté en français.
Mais je pense que ça ne se justifie pas si on a déjà le jeu de base de reprendre en plus la version de luxe qui sera sûrement pas donnée.
Bah ouais. Moi, c'était 60€ la version allemande, je crois, au départ. Ça. Bah après, s'il est vraiment beau et tout, moi, pourquoi pas, c'est un jeu que je sors tout le temps. Enfin, quand je dis tout le temps, c'est-à-dire que je sais que je vais le ressortir à peu près en moyenne tous les 6 mois, je fais au moins une partie.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça. J'ai moins Agricola, c'est pareil, donc c'est des jeux, du coup, je n'ai pas hésité à les embellir et tout.
Ouais, c'est l'avantage. Enfin, effectivement, c'est ce genre de jeu où tout le monde connaît les règles et tu n'as pas besoin d'une demi-heure pour te replonger dedans. Et hop, tu fais une partie, tu installes le matos et tu es tout de suite dedans.
Et tu as une bonne profondeur.
Donc,
c'est tout. Le magazine Istari.
Puerto Rico Deluxe pour 2 à 5 joueurs.
Vas-y. Ah si, il faut rajouter
vas-y.
Juste,
s'amusera au montage.
Juste pour préciser que dans le nouveau, donc ce numéro 2 de l'Istari Mag, il y a la version solo de Mirmes qui a été publiée en exclusivité. Et Mirmes, c'est un excellent jeu de Johan Levé. Et pour ceux qui veulent, on peut y jouer en solo maintenant.
Avec un système qui est un peu plus intéressant que fait des points de victoire et plus en, et vous en ferez. Non, là, il y a autre chose. Il y a
des contrats à remplir, il y a des objectifs qui s'accumulent. Et en fait, alors je ne l'ai pas tout lu en détail, mais le jeu s'arrête que quand on n'arrive plus à remplir les objectifs.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on avance et on joue contre le jeu et c'est plus ça. Et en fait, il y a l'impression d'avancer plutôt que de l'impression de dire, voilà, on va faire une partie de tout ça.
C'est une fuite en avant, tu veux dire.
C'est exactement ça.
Il faut aller le plus loin possible.
Mais ça ira bien quand même à faire des points.
Ah, le but du jeu, c'est de faire des points. Il y a toujours le plus de points possible. Mais c'est pas juste. C'est pas
désolé de vous casser le truc, mais.
C'est pas l'agricole en solo par exemple.
Oui, c'est pas du deck building quoi. Okay.
Voilà, c'est ça. Okay. C'est exactement pareil, voilà, c'est. Bien fait.
Chez Repoprod, on a presque parlé de Seven Wonders en tant que prix de l'année. C'était plutôt l'année dernière que cette année. Le Wonder Pack de Seven Wonders va sortir avec des merveilles supplémentaires. La Grande Muraille de Chine, qui permet aux joueurs de construire sa merveille, mais dans l'ordre qu'il veut. Et puis, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Stone Age, où la pierre sera importante. Abu Simbel, où les joueurs vont pouvoir momifier et enterrer pour gagner des points de victoire. Le Manneken Pis, qui est déjà sorti en 2010, mais qui sera revisité.
C'était un collector, c'était que ceux qui achetaient le jeu à Itzan.
C'était un goodies qui était distribué.
C'est dégueulasse. Parce que maintenant, mon goodies, c'est plus une goodies, c'est plus un collector.
Et même, non, mais c'est pas grave, parce que tu seras content, parce que tu l'auras sur un carton de meilleure qualité.
Mais la question, c'est est-ce qu'on pourra se faire payer une bière, toujours, dans la nouvelle version du Manneken Pis?
Bah, j'espère.
Ça, c'est un appel du pied, tu vois, pour que j'aille sortir la bière. Et par contre, moi, ce que je reproche, c'est qu'ils auraient pu nous mettre le Cupertino, qui est l'anneau de Apple, enfin, qui est le siège d'Apple, mais qu'on n'a plus avec la version.
Après, avec le prix de l'action qui monte et qui descend.
Ouais, mais parce que. Ouais, mais au moins d'avoir un carton, parce que tu l'as sur la version iPad, mais quand tu veux jouer, il faut poser l'iPad, c'est pas pratique.
Mais comment tu gères la fluctuation de
l'action? Tu as forcément à côté ton iPhone, ton iPad, avec l'application qui te dit quand même comment elle est faite sur cette partie. Mais c'est bien d'avoir le carton pour pouvoir.
D'accord. Ah, parce que tu veux, d'accord.
Et ils ont pas mis non plus. Ils le feront, à mon avis, un Wonder Pack plus plus tard, où ils mettront. Parce qu'il n'y a pas non plus Catan.
Non, mais ils feront un Seven Wonders la totale.
Pour la sixième
Xbox. Un Big Box à Seven Wonders. Ouais. Bah, ils ont le temps encore.
Ça prendra la moitié de ta valise quand tu reviendras des scènes en 2015.
Rest for the Galaxy, puisqu'on a parlé de San Juan brièvement tout à l'heure, Rest for the Galaxy Alien Artifact est toujours prévu en décembre. Et on entend déjà parler de Roll for the Galaxy. Alors, Roll for the Galaxy, c'est Race for the Galaxy, mais avec des dés. C'est le jeu de dés.
Comme Roll Through the Ages ?
Eh bien, j'espère, parce que c'est ce que j'allais dire. Si c'est une aussi belle conversion que Roll Through the Ages, ça peut être pas mal. C'est plus accessible que le jeu de cartes. Que Roll Through the Ages est beaucoup plus accessible que le
jeu. Oui, là, il y a pas de mal. Je trouve même trop accessible. Moi, j'aime pas Roll Through the Ages.
C'est vrai, même avec
l'extension. Ah, bah, c'est un jeu d'apéro, hein.
Avec l'extension, non, je peux pas jouer avec l'extension.
Donc voilà, donc.
Faut m'accrocher au jeu pour jouer avec une extension souvent.
J'espère qu'on trouvera bientôt en boutique Race for Galaxy des artefacts aliens. Et puis pour 2013, Roll for the Galaxy, c'est de la prospective.
C'est une arlésienne, Alien Artifact.
Alien Artifact, effectivement, il y avait Tom Lehman qui était à SN sur le centre de Rio Grande qui était venu en parler avec les joueurs. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de date fixée.
Il dit I don't think so.
I don't think so. That's what he said.
Et pour finir cette rubrique des news jeux de plateau.
Déjà ?
Ah bah oui, hein, je pense, ça fait un moment que ça tourne.
Oui, puisqu'on voulait faire une heure et on voulait faire une heure en tout et il est déjà 1h07.
Non, mais c'est bon, c'est bon, t'as pas là. Et c'est en fait les annonces en français de jeux qui sont sortis à Essen en allemand. Et. Pour moi, à mon avis, ce sont des bons pics. C'est Gigamic qui les a fait. Alors, l'année dernière, enfin, Gigamic avait quand même choisi Trajan et Descendance, qui ont été des excellents choix.
Très bon choix,
c'est des jeux qui ont raflé pas mal de prix. Mmh. Ouais. Et donc, chacun dans leur catégorie, hein, plus Core Gamer quand même que l'autre. Et là, donc, c'est Keyflower qui arrive chez Gigamic. On devrait le voir dès janvier, donc, c'est-à-dire rapidement. Si ce n'est pas en janvier, à mon avis, ce sera en février, ce sera pour Cannes. Donc, Keyflower, c'était un jeu de Richard Breeze.
Il y a du texte sur les cartes ?
Non, justement, c'est un jeu qui a du matériel tout neutre. Il y a plein de meeples.
Ah, ils vont franciser les people.
Et ben ouais, il y a du texte sur les cartes, mais il est pas important. C'est, ouais, sur les tuiles, mais c'est le nom des bâtiments, si je me trompe pas, donc c'est pas gênant. Je l'ai ramené d'Essen, j'ai déjà lu les règles, c'est quand même un jeu basé sur l'enchère. C'est, à mon avis, assez ardu, parce qu'il y a que 4 tours, ça joue sur 4 saisons.
Les saisons, j'ai pas encore testé. Ouais.
Moi, ça me fait bien.
Oui, mais c'est un peu comme Irmes, à mon avis, un peu les mêmes, on y retrouve quelques concepts.
Oui, effectivement, il y a 3 saisons classiques, plus l'hiver qui est une saison à part, ou qui va servir à scorer, ou à préparer son score pour la fin de partie. Mais effectivement, il y a beaucoup de matos. Enfin, je crois qu'il y a 140 meeples, quelque chose comme ça.
Ouais,
c'est gavé de matos, enfin gavé de meeples surtout. Et c'est un jeu d'enchères qui dit pas son nom, mais c'est à l'air aussi assez original. Moi, c'est un jeu qui me fait bien envie. Je regrette presque de pas l'avoir ramené des scènes, mais maintenant qu'il y a une VF qui est annoncée, j'attends avec impatience.
Un gros sac de meeples pour justifier le prix.
De toute façon, c'est que des meeples et des tuiles. Et si des petites maisons en paravent individuel.
Et des sortes de cylindres aussi.
En paravent individuel, qu'est-ce que t'appelles
T'as des petits paravents pour cacher tes ressources, tes meeples, etc. Mm-hmm. Et ça fait des. Quand tu regardes.
Ah oui,
ça fait des petites maisons.
Il faut cacher.
Donc t'as un petit côté village une fois que tout est assemblé. Et c'est quand même un peu le but du jeu, c'est de construire son village. Encore un jeu d'urbanisation.
Chut, t'en avances. Oui, il y a des thématiques qui reviennent comme ça.
Donc Keyflower, c'est un jeu de Richard Breeze et de Sébastien Blisdale, excusez-moi, paru en 2012 à Essen pour 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans, 90 minutes, donc c'est quand même du jeu un
minimum
peu
90 minutes.
Et pour joueurs avertis, et c'est un jeu d'enchères qui va sortir bientôt, très bientôt, chez Philosophia.
J'en parlerai
chez Gigamic.
Chez Gigamic, bravo.
Ah bon ? Ah bon ?
C'est Madame Mathilde qui va pas être contente.
Ah oui, on a parlé déjà de Philo avant.
Excusez-moi.
Mais je pense que c'est un bon pic, justement, un peu comme Philo. Je pense qu'ils ont bien fait. On en parlera quand il sortira en français, j'aurai envie d'y jouer.
Oui.
Ah oui, toujours.
Et oui, donc à noter qu'il a fini très bien classé, premier ou deuxième, je sais plus, au classement Fair Play.
Oui, voilà.
Donc à savoir s'ils l'ont signé avant de voir le classement ou s'ils l'ont signé après.
Le premier, c'était Terra Mystica.
Je pense qu'ils l'ont signé.
Oui, je me souviens plus de l'air.
Mais Mirmes était pareil, il lui manquait juste quelques notes, mais il aurait été dans ce classement-là.
Il manquait quelques voix, en fait, effectivement, c'est dommage.
Et puis autre jeu chez Gigamic qui arrivera plutôt au printemps, c'est Kin de Knizia qui est sorti pour l'instant.
Pourquoi tu dis c'est Kin ?
C'est Xin, non, je crois que
ça s'écrit Kin, mais on dit Xin, en fait.
Le patron nous a dit c'est Xin.
Donc Xin même,
il me semble que c'était un truc comme ça.
Bon, mais je ne sais jamais comment prononcer le Q. Mais je ne sais jamais comment on prononce cette lettre.
En chinois ?
Si on la prononce à la française, voilà, c'est Kin. Okay. Donc voilà, c'est sorti pour l'instant chez Pegasus en allemand. Il est sorti sur iPad, on en parlera dans la phase B. Puisque moi, c'est un jeu que je trouve très bien en format plus familial, justement. Ça.
Oui, effectivement, c'est très léger. C'est un Tigre Euphrate léger.
Ouh, alors ça ?
Ouais, mais c'est
Tigre
Euphrate ce qui fait sa
léger. Donc Xin ou Kin ou Shin, ou comme vous voulez, Q-I-N, c'est un jeu de Rainer Knizia, qui est paru également en 2012 pour 2 à 4 joueurs et à partir de 8 ans et 30 minutes. Et ça, c'est bien.
Oui, c'est effectivement très court.
Un petit mot sur notre sponsor, Ludic Bazar. Donc, ludicbazar.com, c'est une boutique de jeux de société sur Internet. Jeux discount, neuf occasions. Ils ont plein de choses. Pas que du jeu de société, jeux de rôle, jeux de figurines, jeux de cartes à collectionner. Beaucoup de discount, beaucoup de bonnes affaires à faire et surtout un concept innovant. Achetez un jeu, découvrez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de titres qui sortent tous les mois. Il est difficile de faire son choix. Des fois, on est déçu. C'est-à-dire qu'on va acheter un jeu, on est buzzé. Et puis, en fin de compte, on est un peu déçu parce que c'est pas pour nous ou c'est pas aussi bien qu'on l'avait cru. Donc, on peut le renvoyer chez Ludic Bazar, qui va nous faire, si on renvoie le jeu de plateau neuf dans les 30 jours, un avoir contre seulement 5 euros. Donc, vous perdez 5 euros sur le jeu, mais vous l'avez essayé, vous y avez joué, vous n'êtes pas convaincu, vous ne le gardez pas, et la décote est assez faible. Acheter des jeux ne sera plus jamais comme avant. Et chez Ludic Bazar, vous pouvez trouver... Alors, ça n'a aucune relation de cause à effet. Hein, vous pouvez trouver les jeux dont on vous a parlé, par exemple Star Wars... mais non, il n'est pas sorti encore.
Mais en précommande.
En précommande.
Vous avez Star Wars The Card Game en précommande qui est à 35 euros.
Alors 35 euros quand vous n'avez pas la carte de fidélité.
Oui, parce que sinon vous pouvez aller jusqu'à 13% de réduction.
Et donc ça vous le met presque en dessous des 30 euros.
Voilà. Donc qu'est-ce qu'on trouve d'autre au cœur des années 20, donc le supplément Cthulhu qui arrive tout prochainement. Donc, vous avez la version normale à 46 euros et peut-être que quand vous écouterez, il y aura encore quelques versions collector.
Il y en a là encore ou...
La 150. Je ne la trouve pas.
Non, ils en ont eu quelques-uns et puis c'est parti.
C'est déjà parti. Bon, voilà.
Voilà, donc Ludic Bazar, ludicbazar.com, achetez un jeu, découvrez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. On passe aux écrans, Jérémy.
Allons-y pour les écrans. Alors, j'ai pas grand-chose sur les écrans.
Moi non plus.
Qu'est-ce que j'ai ? Alors j'ai un...
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qu'on a annoncé ces dernières semaines, ils sont toujours en train de travailler dessus ?
Non, j'ai surtout annoncé les sorties. Les jeux qui vont sortir, j'évite de vous dire, on est à 30% parce que sinon on ne va pas y arriver. Autant parler de jeux qui sortent.
Non,
parce que Eclipse, par exemple, j'ai dit la dernière fois, il est à 50% de développement. Bon.
D'accord, oui,
il y a vous dire à chaque fois, mais 30%. Ouais, voilà, quand je le sais une fois, je vous le lance une fois, mais après, je ne vais pas vous tenir au courant. Non, peu de choses. Il y a Racer FUD. Alors, Racer FUD, c'est quand même rapidement. Je vous en ai parlé pendant les Jeux de l'été. C'était sorti, en fait, c'est un jeu sur l'esprit Formule D, qui a été...
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est dans l'esprit Formule 2
À la base, c'est Formule D, adapté sur iOS. Mm-hmm. Qui était sorti dans l'été et qui s'appelait Formula FUD. Mais Asmodée n'était pas. En fait, avait été contacté, puis comme ils n'avaient jamais répondu pour donner ou pas leur accord, l'auteur avait quand même sorti le jeu et en fait, Asmodée a fait retirer l'application rapidement.
C'est bien dommage.
Parce que l'application déjà reprenait quasiment le nom, reprenait les graphismes, etc. Oui, c'est très dommage, surtout que.
Ils n'avaient rien à faire.
Voilà, Asmodée aurait pu en profiter pour remettre la licence et voilà. Démarrer. Donc du coup, l'auteur a retravaillé tous ses graphismes, etc. Il a changé la thématique. On est plutôt sur la voiture, la NASCAR, là, je crois. Les grosses voitures, les voitures américaines, courses voitures de tourisme américaines. Je
crois que c'est NASCAR. Oui, tourne en rond.
NASCAR, oui, tourne en rond, notamment. Voilà.
L'Indy 500.
Ouais, donc ça s'appelle Racer FUD, maintenant. Alors c'est sorti, c'est gratuit, c'est sorti il y a il y a deux mois. Il avait ressorti. Mais il y avait un gros défaut, c'est quand tu voulais jouer avec des joueurs, il fallait les ajouter dans ta liste d'amis, ou en tout cas, il fallait les retrouver par rapport à leur nom, prénom. Il n'y avait pas moyen de les chercher autrement, donc il fallait savoir qu'un tel était inscrit dessus. Et depuis la semaine dernière, à peu près, il y a une V1.1 qui est maintenant sur le Game Center, donc on peut plus facilement trouver des joueurs pour jouer dessus. Voilà. Par contre, donc, le jeu est gratuit, mais si vous voulez, vous n'avez pas beaucoup de circuits, si vous en voulez plus, après, il faut... ou bien vous postez sur Facebook et Twitter comme quoi le jeu est génial, en anglais.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Ouais, ça te donne une course en plus. Et puis sinon, il faut payer, je crois...
du in-app purchase.
Ouais, il y a du in-app purchase. Je crois que c'est 79 centimes le
circuit supplémentaire.
Le circuit. Enfin, 89 centimes peut-être, plutôt.
Maintenant que ça a augmenté.
Voilà, maintenant que ça a augmenté.
Tu conseilles ?
C'est gratuit, donc vous pouvez essayer. je veux dire, tu peux essayer la première. T'as un premier circuit, t'as le circuit de Sepang qui est gratuit. Donc
non, mais attends, dans la vie, il y a le temps et l'argent. Et des fois, on a de l'argent, mais on n'a pas le temps. Donc, c'est pas la peine de conseiller des jeux auxquels.
Bah, il faut aimer Formule D déjà, hein, donc je vais pas revenir
c'est
sur
pas
ça.
Mal, ça.
Concept
c'est pas mal ça. C'est un bon jeu, Formule D.
On lance les dés, etc. Oui, c'est, moi j'aime bien Formule D. C'est pas. Il faut aimer. On est peut-être la course auto. Il y a une grosse part de statistiques.
De la tête,
il y a une grosse part de proba en fait, à maîtriser, ouais. C'est surtout ça. Après, il y a des trajectoires, il y a des techniques un peu à apprendre, mais globalement. Après, le problème, c'est que c'est un peu long des fois. Si tu joues à 10. Et à l'inverse, c'est court. Enfin, des fois, c'est pas super. Il n'y a pas beaucoup de compétition si tu joues avec 4 voitures. Donc,
Ouais, c'est un peu ce que je reproche, c'est que les parties ne sont pas toujours palpitantes. Mais après, moi, je ne suis pas très client de ce genre de jeu. Mais c'est
parce qu'il faut jouer avec un chrono.
Peut-être, avec le cube.
Avec le cube pour faire les essais, déjà, il faut jouer avec un chrono. Ça rajoute déjà la pression. Voilà, bah, je vous mettrai le lien.
Ouais.
Moi, je conseille, bah, après, oui, ça dépend. Si ça vous intéresse, en tout cas, c'est gratuit. Donc, vous pouvez déjà essayer sur un circuit et après, vous prenez ou pas la suite. Autre news un peu, je sais pas comment on va dire.
Fond de tiroir.
C'est pas du fond de tiroir, mais.
Moi, j'appelle ça fond de tiroir. Mais...
T'appelles ça fond de tiroir. Bon, ouais, non, on les a aperçus.
C'est ce que j'ai sous les yeux, je veux dire.
Ah, bah oui, mais toi, tu triches, t'es déjà allé voir les liens. Mais on avait parlé des. Tous les trucs que Jumbo faisait, enfin, ça se jouait avec les iPads. Et Hasbro va plus loin sur le concept. Ils ont sorti des. Ils ressortent leurs jeux. Alors, c'est les Sempiternels. Jeux de la vie et autres Monopoly, où on met un iPad sur le plateau maintenant. Donc, ils ont sorti les jeux qui s'appellent Zapped. A priori, ça fait un petit moment que c'est sorti. Les éditions volumiques l'ont présenté. Je suis sûr que c'est le genre de jeu pour Olivier, quoi. Jouer à Destin de jeu de la vie avec un iPad en plus, je suis pas sûr que ça change intrinsèquement la qualité du jeu.
J'ai un iPad et je joue à Destin le jeu de la vie en vrai. Mais, mais je ne jouerai pas à ça.
Voilà, par contre, le trou de la version Monopoly, du coup, ça permet de. Tu présentes tes titres devant le devant l'iPhone. Je pense que ça marche avec des QR codes. Je sais pas si ça évite de t'emmerder avec les. Pardon, si ça évite de gérer à chaque fois tous tes billets, tes machins, etc.
Mais quel intérêt, puisque on a
ah
dit
ça reste un Monopoly, ça reste des jeux à
Monopoly, l'intérêt c'était de tricher, donc je sais pas.
C'était de s'occuper les après-midi de pluie surtout.
Ouais.
Ouais. Enfin maintenant on a suffisamment de jeux autres pour s'occuper, je pense.
Déjà, l'iPad en soi, il permet de s'occuper largement.
Bah voilà, mais bon.
Vous l'aurez compris.
Je vous mettrai quelques liens. Oh, bah oui, mais il faut voir un peu. Enfin, moi, je regarde ce qui sort à côté. Hein.
Tout à fait. Oui, bah il faut qu'on reprenne contact avec, avec Ipone, parce que c'est ce qu'il y avait quand même de plus sérieux en matière d'utilisation d'iPad. Enfin, d'utilisation d'iPad, parce que c'est plutôt les volumiques, mais d'utilisation d'écran avec des, et de mise à contribution du jeu de société.
Oui, c'était beaucoup plus intéressant pour nous.
Ouais.
Audito qui travaille actuellement sur plusieurs projets, donc notamment Eclipse et entre autres Through the Edges, qui doit sortir bientôt sur iPad, a annoncé que le projet était quasiment terminé et qu'ils espéraient le sortir avant la fin de l'année.
D'accord. Et ben voilà, une bonne nouvelle. Avant la fin de l'année, c'est demain.
Oui, il reste un mois, ouais, ça va être court.
C'est pas mal. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse de notre site, podcast.proxy avec un -jeu avec un x.fr. Je vous rappelle aussi l'application mobile sur iOS et Android. Vous trouverez toutes les informations sur le sujet qu'on a abordé ce soir sur le site. Merci pour vos commentaires. Mettez des commentaires sur le site, ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez des choses à rajouter sur le sujet qu'on a abordé. Mettez-nous une note sur iTunes et puis un gentil commentaire ou un commentaire méchant, mais notez-nous. La semaine prochaine, le 37B, la phase B avec, c'est quoi le programme ?
Terra Mystica, Strix Railway,
et Love Letter,
et qui ?
Et puis d'ici là, jouez bien.
Une heure, hein, comme non, à la radio.
Juste, tu tripotes pas ton pied, s'il te plaît. Voilà.
C'est pour dire, attention, je vais votre attention, si voilà. T'entends pas, mais ça fait un bruit merveilleux.
Nous sommes le lundi 26 novembre et vous écoutez le 37e épisode de Proxy Jeux. On dit 2012 ou pas ?
Non, on dit jamais l'année.
On dit jamais l'année.
Non, bah quand même.
Ça va être long.
Habituellement, non, ça on le fait d'une traite maintenant. Avant, il fallait une demi-heure.
Non, mais il tape sur le micro.
Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société.
Et Proxy Jeu, c'est aussi une application sur iPhone et Android.
Merci, excuse-moi. Voilà.
Vas-y.
Et puis, parce qu'il faut bien qu'Olivier travaille un peu, il faut qu'il coupe. Alors, et puis. Non, on va pas le dire, tiens. De toute façon, maintenant, c'est trop tard.